Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Le procès du médicament accusé d'avoir fait des centaines de morts commence à Paris. Le médiateur principal accusé, les laboratoires Servier qu'il fabriquait et l'agence du médicament de l'époque. Quelques 5 millions de personnes ont pris du médiator le temps de sa commercialisation. 600 000 voyageurs en carafe à cause de la faillite de Thomas Cook. Près de 10 000 voyageurs français dans la nature. Comment va s'organiser le rapatriement? Comment expliquer cette faillite? Que raconte-t-elle de nos façons de voyager aujourd'hui? L'invité de ce journal est Jean-Pierre Mas, le président des entreprises de voyage. À quoi va servir le nouveau sommet international à l'ONU sur l'urgence climatique? Nous irons à New York dans l'avion. Emmanuel Macron incite à l'action collective. Le climat, l'écologie à 13h30 tous les jours sur France Inter. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré, quel est le programme?
Je reçois la sociologue Jocelyne Porcher qui sort un livre détonnant, Cause animale, cause du capital. Selon elle, les défenseurs des animaux feraient le jeu des industriels de l'agroalimentaire qui nous préparent les substituts à la viande. J'attends vos questions dès maintenant.
01 45 24 7000, c'est à 13h30. Avant cela, les autres titres de l'actualité. La mise au point du directeur de l'ANSES, l'agence sanitaire. Cigarettes électroniques, pas de problème sanitaire. La lourde critique de la maire de Paris ce matin sur France Inter. Il devient difficile de manifester après les lacrymos de ce week-end. Le coup de rabot sur les exonérations offertes aux personnes âgées pour emploi à domicile. Et puis la série britannique Fleabag, sacrée meilleure comédie aux Oscars de la télé à Los Angeles. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Un médicament accusé d'avoir tué ou ruiné des vies. Un laboratoire accusé d'avoir caché ses effets secondaires dangereux. Une agence de médicaments accusée d'avoir fermé les yeux. Voilà le procès du Mediator qui s'ouvre aujourd'hui à Paris. Le Mediator antidiabétique prescrit comme coupe-faim, il abîmait les valves du cœur. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour.
Vous êtes Sophie, l'une des envoyées spéciales de France Inter à ce procès. Il y a près de 2700 parties civiles. À votre micro, parole de vie. Victimes lors de à l'ouverture de cette première audience, pardon.
Des victimes qui ont commencé à arriver devant le tribunal dès ce matin pour ne pas rater ce procès qu'elles attendent depuis 10 ans. Des victimes qui marchent avec difficulté, le souffle court, comme Gaëtan, 65 ans.
J'ai pris du médiator parce que c'était pour une surcharge pondérale. Normalement, c'était pas prévu à ça. Enfin, j'en ai pris, mais ça m'a pas fait maigrir. Ça m'a fait une valvo-loculaire, c'est ça? J'ai mon souffle coupé quand je marche. J'y arrive plus à marcher comme je faisais avant. Ma vie est gâchée, ma vie de retraité est gâchée. Ah, j'en veux au laboratoire Servier, c'est sûr. Je veux qu'ils soient condamnés fortement.
Appuyée sur une canne, Chantal, elle aussi, a vu sa santé décliner à cause du Mediator. Elle est en colère, elle aussi, contre les laboratoires Servier, mais pas seulement.
Pour moi, il y a eu beaucoup la faute de l'État aussi, parce que l'État a laissé passer un médicament qui empoisonnait les gens, alors que déjà dans d'autres pays, depuis très très longtemps, le médicament était supprimé. Servier, c'est vrai, il est en tort parce qu'il a continué à nous empoisonner, mais je crois que l'État aussi est en tort. Alors moi, j'aimerais bien aussi que l'État prenne ses responsabilités à ce niveau-là.
Parmi les nombreuses victimes qui entrent en ce moment même devant nous dans la salle d'audience, il y a aussi des familles qui sont là pour représenter les morts. Ma mère est morte à 51 ans après avoir pris du Mediator, confie une jeune femme la gorge serrée. Jacques Servier, lui, en avait 96, regrette-t-elle. Il n'est pas là aujourd'hui pour être jugé.
Merci Sophie Parmentier en direct du Palais de Justice de Paris. Alors, question clé lors de ces 7 mois d'audience, comment, alors que les premières alertes ont été lancées dans les années 90, comment le Mediator a-t-il pu être en vente jusqu'en 2009? Les laboratoires Servier ont-ils cherché à cacher les effets dangereux de leurs produits? L'agence du médicament de l'époque s'est-elle fait rouler, voire a-t-elle fermé les yeux? 23 prévenus, des dizaines et dizaines d'avocats, c'est un procès hors norme. L'expression revient en boucle. Le décorum, l'organisation de ce procès sur place le justifie, Corinne Audouin.
C'est un peu un procès test pour le tribunal de Paris, inauguré il y a 18 mois, porte de Clichy. Pas moins de 5 salles d'audience sont réquisitionnées aujourd'hui. Je me trouve devant la salle principale de 250 places, où vont comparaître les 23 prévenus, 12 hommes et femmes et 11 personnes morales. En face, une autre salle de même taille retransmet le procès sur écran vidéo. Le but, eh bien, c'est que les 400 avocats et les parties civiles qui le souhaitent puissent tous assister aux audiences. On croise des psychologues de l'association Paris Aide aux victimes en chasuble bleu, missionnées pour accompagner celles qui ont fait le déplacement. Elles sont quelques dizaines pour l'instant. La témoin la plus attendue, la pneumologue de Brest, qui avait lancé l'alerte, Irène Frachon, est arrivée. Alors cet après-midi, l'audience va être consacrée à l'appel des 100 témoins convoqués dans ce procès et à la lecture des noms des 4000 plaignants. Un procès fleuve, car il s'agit de juger tous les aspects de cette affaire tentaculaire. Pourquoi le médiateur a-t-il été vendu jusqu'en 2009, malgré de sérieuses alertes dès la fin des années 90? Il faudra bien 7 mois pour y répondre. Au tribunal de Paris, Romain Lucquien, Corinne Audouin, France Inter.
Des erreurs ont été commises, reconnaît l'un des avocats des laboratoires Servier au moment où ce procès commence, mais l'instruction a été menée à charge. Le scandale, on l'aura compris, avait révélé des failles énormes dans le système de surveillance des médicaments et d'indépendance de certains médecins aussi vis-à-vis des laboratoires. Qu'est-ce qui a changé depuis? Eh bien, dans le nouveau podcast de France Inter Poursuite, Daniel Messager répond à cette question. Allez sur franceinter.fr ou les plateformes de podcast pour télécharger Poursuite. 600 000 voyageurs en carafe dans le monde entier. Voilà la première manifestation visible de la faillite de Thomas Cook, le voyagiste. 600 000 en carafe, beaucoup de Britanniques évidemment, on les évalue à 150 000. Témoignage de celui-ci auprès de nos confrères du Guardian.
C'est l'incertitude totale pour Maryse. Un an que son voyage en Polynésie avec ses enfants est prévu, elle devait partir le 20 octobre.
Alors on va entendre le voyageur britannique dans un instant. D'abord, effectivement, Martin Cotta, France Bleu Mayenne, auprès de ses clients français en Mayenne, qui s'inquiètent dans les agences Thomas Cook. Pourront-ils partir? Pourront-ils avoir leur voyage?
C'est l'incertitude totale pour Maryse. Un an que son voyage en Polynésie avec ses enfants est prévu. Elle devait partir le 20 octobre. 21 000 euros de payés déjà sur les 35 000 de prévu. Cette habitante de Montigny-le-Briand ne connaissait évidemment pas la situation financière de Thomas Cook lors de sa réservation.
Ah non, pas du tout. Ils auraient pu nous le dire en fin de compte parce qu'on aurait été dans l'agence en face. Quoi. Apparemment, l'agence de Laval, ça marche super bien. Il fallait tout le temps prendre des rendez-vous parce qu'il avait un monde fou. Donc je suis pas inquiétée du tout. Quoi. Je suis tombée des nues. Quand hier mon fils m'a appelé, t'as entendu ce qui se passe, je suis tombée des nues. Quoi. On croise les doigts.
Dominique a lui dépensé 800 euros pour un week-end de 4 jours en amoureux à Venise.
Pour moi, l'espoir est toujours là. Oui. C'est pas un voyage directement avec Thomas Cook. Moi. Parce que comme ils prennent des prestataires à côté, donc du coup, moi, le fait de partir avec un prestataire, j'ai peut-être plus de chances de pouvoir partir que les personnes qui ont vraiment un voyage avec Thomas Cook. C'est de la certitude, mais bon, bah voilà quoi. Il faut faire avec maintenant, il faut attendre les nouvelles et puis voir ce que ça va donner.
Aucune réponse sur un éventuel remboursement n'a été donné à ses clients mayennais pour le moment.
Et on parle de l'opération de rapatriement dans un instant avec Yann Gallic. Bonjour Jean-Pierre Mas.
Bonjour.
Président des entreprises du voyage, vous dites cette faillite c'est un séisme. Pourquoi est-ce que c'est un séisme?
Parce qu'il n'y a jamais eu de faillite aussi importante dans le monde du tourisme, même pas dans celui du transport aérien, avec autant de passagers au niveau mondial laissés sur place. Oui. 600 000, c'est une très très grande ville. Oui. Alors ils proviennent de plusieurs pays, ils sont sur plusieurs territoires. Moi, je m'occupe un petit peu plus des passagers français.
Il y en a à peu près 10 000.
Pardon ?
Il y en a à peu près 10 000, c'est bien ça.
Il y en a à peu près 10 000. Oui. Il y en a un petit peu moins parce qu'il y a eu des retours ce week-end. Thomas Cook a assuré quelques retours ce week-end. Mais il y a quand même beaucoup de passagers qui sont laissés dans des pays étrangers et qui ne savent pas comment ils vont rentrer de vacances.
Dans quel pays étranger en ce qui concerne les Français ?
En priorité, le bassin méditerranéen, oui. La Crète, la Grèce, l'Espagne, la Tunisie. Voilà les grandes destinations du bassin méditerranéen de Thomas Cook.
Thomas Cook, c'est quoi, Jean-Pierre Mas ? Ça représente quoi ?
Thomas Cook, c'est un énorme groupe mondial de tourisme, un énorme groupe intégré avec des avions, deux compagnies aériennes, avec des hôtels, avec des tours opérateurs, en France Jet Tour, mais partout ailleurs il y a des tours opérateurs, et avec des agences de voyage. C'est un modèle économique qui est un modèle économique du XXe siècle.
On va détailler cela dans un instant, mais on imagine les conséquences économiques en chaîne. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut dire à 13h09 là des opérations de rapatriement qui se préparent pour les un peu moins de 10 000, nous dit Jean-Pierre Mas, passagers français?
Alors, il y a en fait deux cas de figure. Les voyageurs qui ont un billet retour avec une compagnie aérienne régulière, eux, pourront rentrer normalement. Absolument. En revanche, ceux qui étaient censés revenir chez eux à bord d'un avion ou d'un charter affrété par Thomas Cook devraient se voir proposer une solution alternative dans les jours qui viennent. Les pays européens tous les pays européens vont mettre en place des systèmes de rapatriement pour leurs ressortissants, notamment l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui devront organiser respectivement le retour de 140 000 et 150 000 vacanciers. Pour l'instant, seules les autorités britanniques ont officiellement activé un plan d'urgence avec des lignes téléphoniques dédiées afin d'aider les voyageurs et des avions spéciaux réservés pour mener à bien cette opération hors norme qui devrait durer quand même jusqu'au 6 octobre. Des avions sont déjà arrivés ce matin en Grèce où 50 000 clients de Thomas Cook sont actuellement bloqués. Si leur retour est retardé, les vacanciers pourront se faire rembourser tous les frais supplémentaires grâce à la garantie Atoll qui couvre les voyages organisés et qui s'applique à tous les membres de l'Union européenne, sans oublier les fonds de garantie locaux. Il y en a un hein, en France. Les clients devraient partir et les clients qui devraient partir ou qui devaient plutôt partir bientôt en voyage avec Thomas Cook devraient être également remboursés, même si la direction du tour opérateur en France précise ce matin qu'elle ne peut prendre aucun engagement pour l'instant tant que l'entreprise n'a pas été placée en cessation de paiement.
Jean-Pierre Mas, il y a d'autres détails importants à savoir à propos de cette opération de rapatriement?
Yann Gallic a dit l'essentiel des problèmes de rapatriement. On va rapatrier en fait les Français, il y a une cellule de crise qui est en place bien évidemment en France. On va rapatrier les Français en vacances en utilisant les vols des autres opérateurs, les places libres sur les vols des autres opérateurs qui sont sur les mêmes destinations, des vols réguliers, des vols de compagnies régulières, et puis en mettant en place un programme spécial de vols pour assurer ces rapatriements.
Alors, ce que paye Thomas Cook, vous commenciez à nous dire il y a quelques minutes, c'est ce modèle intégré tout en un, l'hôtel, l'avion, l'agence de voyage, ça c'est fini.
Oui, ce que paye Thomas Cook, c'est les certitudes d'un leader. Quand on est leader sur un marché, on est imbu et empêtré dans ses certitudes. Thomas Cook n'imaginait pas qu'il, sauf depuis ces derniers mois, qu'un jour il pourrait tomber. Le problème, c'est que quand il tombe, ça fait du bruit. Donc ils avaient des certitudes, et ce modèle qui avait très très bien fonctionné au XXe siècle ne répond plus aujourd'hui ni au commerce électronique, aux demandes, et encore moins aux demandes qui ont considérablement évolué des voyageurs.
C'est-à-dire les vols qu'on prend au dernier moment.
Les voyageurs, ils veulent prendre une compagnie low cost et avoir au bout un hôtel de luxe, c'est tout à fait conciliable. Choisir la durée de leur voyage, packager eux-mêmes, construire eux-mêmes leur voyage en associant un transport et un hôtel. Et Thomas Cook ne savait pas répondre à cette demande-là. Et ils avaient par ailleurs des frais de structure extrêmement élevés, alors qu'aujourd'hui, l'agilité, ça demande également une très grande légèreté dans les frais de structure.
Vous disiez, une telle faillite dans le monde du tourisme, c'est du jamais vu. Quelles conséquences économiques enchaînent derrière cette faillite-là ?
Il risque d'y avoir des conséquences économiques non négligeables en chaîne chez les hôteliers, chez ceux que Thomas Cook n'a pas payé, ceux à qui il doit de l'argent. Je pense notamment aux hôteliers. Il peut y avoir des conséquences économiques chez des agences de voyage qui n'ont pas de système de garantie, qui sont fixées par des réseaux, qui sont établis par des réseaux, comme Selectour, Tourcom, Manor, Havas. Il y aura moins de conséquences. Une agence indépendante risque d'avoir des conséquences économiques. Et Thomas Cook était également un réseau d'agences de voyage. Il peut y avoir des conséquences économiques chez d'autres tour opérateurs qui ne sont pas payés, seront pas payés des prestations déjà fournies.
Il se trouve, Jean-Pierre Mas, que parallèlement, il y a deux compagnies aériennes françaises, Aigle Azur, XL Airways, qui sont en très grande difficulté. Il y a un lien à faire entre les deux ?
Septembre noir, c'est le lien. Non, il n'y a pas de lien à faire. C'est les raisons de la déconfiture de ces trois sociétés sont extrêmement différentes. Aigle Azur, c'est un développement à tout va, irréfléchi. XL Airways, c'est la concurrence très dure de compagnies comme Norwegian, malgré une gestion extrêmement rigoureuse de son président. Et Thomas Cook, c'est la lourdeur.
Est-ce que vous savez nous dire qui était, j'espère ne pas vous piéger, qui était le personnage Thomas Cook ? Qu'est-ce qu'on peut en dire en deux mots ? Je vous dis ça parce qu'on va lancer une petite archive sur sa vie.
Alors, je crois que Thomas Cook était un des premiers voyageurs du 19e siècle, enfin de la deuxième moitié du 19e siècle. C'était l'époque où les voyages étaient réservés à une élite. C'est pas le cas maintenant, heureusement.
Et son nom a symbolisé le goût, le plaisir, le développement, la popularisation du voyage au fil des décennies. Alors chaque lundi, dans ce journal de 13h, on diffuse une petite archive grâce aux camarades de l'INA. Voici une archive d'une émission qui s'appelait Marchand d'Histoire, novembre 1994. Le producteur était le cher Claude Villers.
Marcher, oui, marcher, marcher, toujours marcher. Ah, Thomas Cook marche encore en ce 9 juin 1841. Parti de Market Harborough, il se dirige à grands pas vers Leicester. 15 miles, ce n'est vraiment pas la mer à boire, 15 miles. À raison d'une moyenne annuelle d'environ 2000 miles, Cook a parcouru ces 12 dernières années plus de 40 000 kilomètres à pied. Ah, 40 000 kilomètres. Un véritable tour du monde, effectué sans jamais, jamais mettre une semelle hors du Lincolnshire et du Leicestershire, deux comtés du centre de l'Angleterre. Thomas a effectué ses premiers pas en tant que missionnaire baptiste. Et maintenant, toujours animé par le prosélytisme, il arpente les routes afin de faire progresser la cause de la tempérance dans une Angleterre saoule de bière.
La façon de voyager a bien changé depuis, n'est-ce pas?
Ah oui, absolument, mais c'est un plaisir d'écouter Claude Villers.
Est-ce que vous espérez, vous pensez qu'il y aura des repreneurs pour Eglasir ou Excel Airways? On saura ça dans les heures et les jours à venir.
Je ne sais pas, Eglasur, ça va être décidé aujourd'hui. Je suis assez sceptique. Aujourd'hui, la valeur d'Eglasur, ce sont ses droits de trafic. Pour reprendre Eglasur, il faut reprendre les droits de trafic, mais en même temps, les avions qui y sont associés et le personnel qui est affecté. Je crois que ce sera difficile d'avoir une reprise. Et XL Airways aussi, il y avait une piste Air France, elle semble ne pas avoir abouti.
Et le président des entreprises de voyage, quand il voit toute cette actualité, le président que vous êtes, il est inquiet?
Alors, il n'est pas fondamentalement inquiet. Il est inquiet aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est.
Et j'ajoute qu'on va parler climat et qu'il est de plus en plus mal vu de prendre l'avion. Enfin,
absolument.
Bref, comme s'il y avait une menace sur le tourisme.
On est très impliqué, justement, dans le fait que le transport aérien doit devenir vertueux et doit avoir un bilan carbone neutre. Ouais. Mais on n'est pas, pour revenir à votre première question, je ne suis pas inquiet. Parce que le nombre de voyageurs dans des avions, le nombre de touristes dans le monde va doubler dans les 20 ans à venir. On est sur un secteur qui est en fort développement et qui vit des crises conjoncturelles comme celles que nous vivons aujourd'hui.
Merci beaucoup Jean-Pierre Mas d'être venu répondre à nos questions dans les studios de France Inter. Et je le disais, s'ouvre donc dans les heures à venir un nouveau sommet de l'ONU en marge de l'Assemblée Générale, sommet sur l'urgence climatique. Sans le Brésil, sans les États-Unis, deux pays souvent montrés du droit en la matière, du doigt en la matière. Alors à quoi peut servir un tel sommet, un de plus? Réponse d'Amida Ahon, elle est directrice émérite de recherche au CNRS, spécialiste du changement climatique. Elle répond à Olivier Poujade.
C'est pas totalement inutile, mais enfin bon, c'est souvent des opérations de communication pour montrer qu'on est très préoccupé par le problème, etc. Mais je n'attends pas que demain des États montrent des plans de politique climatique pour leur pays de façon précise. Ça non. Alors maintenant, au niveau international, qu'est-ce qu'on attend? Il faut avancer sur une chose, une certaine façon de payer le carbone en commun. Ce serait une initiative par rapport au prix du carbone entre les pays qui sont là et qui veulent faire des choses. Bah, il y a la Chine qui est là quand même. Bon, mais évidemment, on sait que elle, sur le prix du carbone, elle a des problèmes avec les États-Unis, elle a des problèmes qui sont liés au commerce international, etc. Mais au moins une déclaration à ce sujet est importante. Ce sommet-là, de toute façon, c'est pas un sommet de décision. Hein. Ce sommet de l'ONU, c'est, je dirais, encore un peu moins que les COP.
Voilà pour cette première réponse. À quoi peut bien servir ce sommet? À ce que les dirigeants se rencontrent, parlent entre eux, à ce que les dirigeants expliquent un peu plus leur politique aux journalistes présents sur place. Emmanuel Macron, confidence dans l'avion à l'envoyé spécial de Cyril Graziani alors qu'il y avait des marches pour le climat le week-end dernier, ce week-end, et que Emmanuel Macron est bien souvent accusé de ne pas en faire assez.
Les banderoles déployées partout en France ce week-end et qui le visaient directement, ça n'émeut pas Emmanuel Macron. Les défilés de jeunes tous les vendredis, la pression mise sur tout le monde, c'est utile, rétorque le président. Mais ces incantations ne suffisent plus, poursuit-il. Les dénonciations, on est au courant. Défiler tous les vendredis pour dire la planète brûle, c'est sympa, mais ce n'est pas le problème. Quelque part, c'est comme s'il n'y avait pas eu le discours de Chirac il y a 20 ans, lâche-t-il. Lui préconise de rentrer désormais dans une forme d'action collective qu'il voudrait plus concrète. Message adressé à la jeunesse, je préfère que tous les vendredis on fasse des grandes opérations de ramassage sur les bords des rivières. Mais cette jeunesse, il estime être avec elle et il l'appelle à l'aider à faire bouger ceux qui ne veulent pas. Qu'ils aillent manifester en Pologne, propose-t-il. La Pologne, un des pays qui bloque la stratégie européenne de neutralité carbone. En revanche, s'il y a bien une chose que le président français n'accepte pas, c'est que certains, sans les citer mais on les reconnaît, le prennent pour cible. C'est utilisé à des fins politiques par des gens, dénonce-t-il, dont l'agenda n'est pas climatique. New York, Cyril Graziani, France Inter.
Autre réunion internationale aujourd'hui, les ministres européens de l'Intérieur au beau milieu de la Méditerranée, à Malte, La Valette précisément. Question, qui peut envoyer des bateaux pour aider les migrants en Méditerranée? Qui peut les accueillir? Quel mécanisme de répartition? Parmi les ONG qui interviennent encore en mer, il y a beaucoup d'ONG allemandes. Comment expliquer cela? Qu'est-ce que cela dit de la société allemande? France Inter à Berlin, Ludovic Piétenu.
Certaines de ces organisations peuvent vous paraître familières. Sea-Watch, Mission Lifeline, CI, Rescue Ship ou Jugendretten, elles sont toutes allemandes ou à l'exception de SOS Méditerranée, franco-allemandes, en pleine opération de sauvetage avec le bateau Ocean Viking, suivi depuis Berlin par Yana Tchernior.
C'est vraiment propre à la société civile allemande, très engagée, qui se lève pour dire « ça, nous ne l'acceptons pas ». Ici, les choses se font au niveau régional, il y a partout des organisations locales très solides, avec une culture de la mobilisation, aussi une tradition maritime qui fait que par principe, on ne laisse personne se noyer en mer.
Il faut aussi aller chercher du côté de l'histoire. Après-guerre, l'Allemagne de l'Ouest a accueilli plus de 12 millions de réfugiés qui fuyaient l'Est. Thies Gundlach est le vice-président de l'Église évangélique allemande.
C'est une expérience clé qui a façonné notre mentalité, notre sympathie de base pour les réfugiés. Cela nous place parfois dans un rôle difficile, comme ici, où l'on s'improvise seul sauveteur sur place. Mais c'est vraiment de là que vient cet engagement.
Cet homme et le reste de l'Église protestante d'Allemagne viennent de prendre une décision. Ils vont lancer dans les prochains mois leur propre bateau de sauvetage des migrants en Méditerranée. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
La maire de Paris, Anne Hidalgo, était ce matin l'invitée de France Inter. Invitée deux jours après un nouveau samedi tendu à Paris. Les 7500 gendarmes et policiers présents ont tapé vite et fort contre les Black Blocs. Trop. En tout cas, des manifestants qui voulaient défiler pacifiquement pour la défense du climat s'en plaignent. Certes, il y avait des Black Blocs en tête de cortège, mais l'usage des lacrymos en particulier a été disproportionné. Voilà ce qu'en dit la maire de Paris.
Ce niveau de violence inouïe, inacceptable, auquel nous faisons face, hein, tout ça n'est pas possible. On ne peut pas vivre dans une société où il n'y a plus de dialogue possible. Et je condamne fermement, évidemment, ces violences qui ont amené à des dispositifs policiers hors normes, qui du coup dissuadent beaucoup de gens. Samedi, beaucoup de parents avec des enfants sont partis, comme moi d'ailleurs, dès qu'on a commencé à sentir les premiers gaz lacrymogènes. Donc, au prochain Conseil de Paris, le préfet de police sera certainement interrogé parce qu'il devient difficile de manifester.
Vous avez appelé Christophe Castaner sur ce sujet?
J'ai fait en sorte que du côté du préfet de police et du ministre de l'Intérieur et Premier ministre, on sache ce qui se passait en effet.
Anne Hidalgo ce matin sur France Inter avec Léa Salamé et Nicolas Demorand. Il devient difficile de manifester, dit la maire de Paris. Le reproche est lourd. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Quelle réponse du côté de la préfecture de police?
Eh bien, les policiers parisiens et les responsables de syndicats que nous avons pu joindre ce matin encaissent assez mal les propos de la maire de Paris, même si Anne Hidalgo fustige d'abord la violence de certains gilets jaunes et de certains groupes de l'ultra-gauche. De l'avis général, s'il n'y avait pas eu intervention immédiate au milieu du cortège de la manif pour le climat, il y aurait eu constitution d'un énorme black bloc, comme le 1er mai 2018 à Paris, près de la gare d'Austerlitz. C'est un truc de fou, cette critique, commentait un spécialiste du maintien de l'ordre. Ce n'est pas possible, poursuit un autre, d'être cloué au pilori quand il y a de la casse et quand il n'y en a pas, ou presque pas, pas de blessés graves non plus. Toutes nos sources demandent surtout dans ce cas-là quelle est la solution, puisque la loi interdit désormais les arrêtés administratifs sur les interdictions préventives de séjour pour des casseurs récidivistes.
Merci Emmanuel Leclerc. Après les arrestations de samedi, on compte une vingtaine de comparutions immédiates, dont le policier manifestant qui a insulté ses collègues. Après les agents de la RATP, les cheminots sont appelés à manifester contre la réforme des retraites à partir de ce soir 20h. La journée s'annonce moins chaotique que celle du vendredi 13 dans les métros, mais tout de même des perturbations dans le programme des trains. Seulement 2 trains intercités sur 5, 3 TER sur 5 et 1 transilien sur 2. Nous en avons parlé longuement jeudi avec Daniel Messager. Doit-on s'inquiéter des effets de la cigarette électronique? Cela après l'interdiction en Inde et des cas de pneumopathie aux États-Unis. Les produits aromatisés sont désormais interdits à New York. Alors la vapoteuse fait des dégâts, oui, quand elle est détournée de son usage, avec du cannabis par exemple, et la composition des produits en Europe et aux États-Unis n'est pas la même. Alors s'inquiéter ici? Non. Mise au point du directeur de l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, ce matin.
en France, pour les produits qui sont autorisés, hein, je ne parle pas des produits qui pourraient être importés frauduleusement, il n'y a pas de problème sanitaire. En Europe, on a un système de déclaration qui fait que tous les fabricants doivent déposer la composition intégrale de leurs produits et que nous avons mission depuis 2 ans de vérifier par échantillonnage ces déclarations. Aujourd'hui, le vapotage offre une alternative qui est plus sûre que le tabac, clairement.
Roger Genet, le directeur général de l'Agence de sécurité sanitaire sur France Info ce matin, à propos du glyphosate, cancérigène possible selon l'Organisation mondiale de la santé. Il a ces mots, le débat scientifique n'est pas totalement tranché. Alors que le gouvernement semble veiller à ne pas réveiller les mécontentements qui avaient éclaté l'hiver dernier, il prépare pourtant une mesure qui va déplaire à beaucoup de retraités. Fini les exonérations très larges de charges patronales quand vous embauchez une personne à domicile. Seules seront exonérées désormais les personnes en situation de dépendance ou de handicap. L'annonce est faite. La bataille d'influence commence. Écoutez Béatrice Laveau de la Fédération des particuliers employeurs de France.
Je suis en colère parce que près de 700 000 personnes âgées de plus de 70 ans bénéficient d'un allègement de charges patronales de sécurité sociale pour accompagner leur vieillissement à domicile sans être pour autant très dépendantes. Et on apprend ce matin de manière brutale, sans concertation, qu'on va supprimer ce dispositif et qu'on va le remplacer par quelque chose qui sera pareil, et c'est faux. Si cette mesure est maintenue, c'est entre 9 et 15% d'augmentation du coût de l'emploi pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Et j'en appelle vraiment à l'arbitrage du plus haut niveau. C'est un dispositif qui va perturber énormément les retraités, à qui, je rappelle, ce gouvernement a ouvert le crédit d'impôt pour tous il y a moins de 2 ans. Donc on est dans quelque chose qui est « je te donne d'un côté, je reprends de l'autre », qui devient complexe. Pour l'instant, il n'y aura pas une compensation à l'euro près de la suppression de l'allègement de charges pour les plus de 70 ans.
Un propos recueilli par Laurent Kramer. Quelques séries télé pour finir ce journal. Quelles séries ont été primées aux Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour la télévision américaine? La cérémonie avait lieu cette nuit à Los Angeles et le bilan, Loïc Piala, c'est un vent de fraîcheur venu d'Angleterre et une récompense de plus, une de plus pour un ultra favori.
L'annonce tant attendue est tombée un peu avant 20h heure locale de la bouche de Michael Douglas.
And the Emmy goes to Game of Thrones.
Game of Thrones, sacrée meilleure série dramatique pour la 4e fois en 8 saisons. Pas vraiment une surprise, tant le show phénomène partait favori. Les 24 000 votants de la Television Academy n'ont à l'évidence pas prêté attention à la colère de certains fans mécontents qui exigeaient que cette 8e et ultime saison soit réécrite et retournée. Sur scène, D.B. Weiss, l'un des 2 créateurs de la série, a salué ceux qui l'ont accompagné pendant 10 ans.
Thank you.
Merci aux équipes de tournage les plus travailleuses dans tout le show business, celles qui ont tourné 70 nuits d'affilée dans les froides nuits les plus pluvieuses de Belfast. Vous êtes incroyable, c'est dingue que vous soyez encore vivants.
Et les Emmy Awards ont récompensé un autre phénomène, son nom, Phoebe Waller-Bridge, cette Britannique de 34 ans, créatrice de la série Fleabag sur une célibataire londonienne, est montée 3 fois sur scène chercher un Emmy pour la meilleure écriture, meilleure actrice et meilleure série comique.
Quand j'ai commencé à écrire la série, j'étais cynique et déprimée par l'état du monde. Écrire ce personnage a été cathartique pour moi.
Son triomphe est une surprise et une bonne nouvelle pour Amazon, qui diffuse la série aux États-Unis sur sa plateforme Prime Video, même si Phoebe Waller-Bridge assure qu'il n'y aura pas de 3e saison.
Et qui diffuse cette série sur sa plateforme vidéo, y compris en France. On parle d'Amazon.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Élodie Calac.
Une perturbation gagne la Bretagne, le Cotentin, les Pays de la Loire avec de la pluie et du vent. De l'Aquitaine vers le centre et la Normandie, les nuages ont l'avantage, on n'est pas à l'abri d'une averse. Ailleurs, c'est plus variable entre nuages et soleil. Parfois, une averse résiduelle sur le nord-est, mais rien de méchant. C'est autour de la Méditerranée que le soleil se montre le plus, au prix du vent, jusqu'à 50 à 80 km à l'heure. Les températures baissent, surtout sur le nord-est. Comptez 17 degrés à Brest sous la pluie, 21 à Lille, Paris, Strasbourg, Tours et Clermont-Ferrand, 23 à Bordeaux, Toulouse ou Montélimar, 25 à Perpignan, à Nice, 26 à Ajaccio. Demain, la journée sera bien maussade, de bonnes pluies et du vent au menu.